Vous écoutez, on lit pour vous.
Ce sont tellement des émotions pures. Un texte de Thomas-Emmanuel Côté paru le 11 août 2025 dans La Presse. Sainte Julie. On s'est tous déjà fait mordre, mais ça devrait être correct aujourd'hui, lance l'animatrice Élie Grenon du camp spécialisé La Bascule. La journée s'annonce calme au camp de Sainte Julie. Il y a plusieurs absents, dont les habituels turbulents. Si les 9 animateurs doivent généralement composer avec une vingtaine de jeunes et moins jeunes, ils n'auront à s'occuper que de 12 usagers aujourd'hui. Et pourtant, 9h30, tout âge, toute autonomie. Pendant la prise des présences, le petit Tim, non fictif, 7 ans, essaie par tous les moyens de sortir en vain. Le jeune explorateur ne voit pourtant qu'en 2 dimensions. Il est parmi les moins autonomes du groupe. Il est non-verbal et ne reconnaît pas son nom. La clientèle du camp est de « tout âge, toute autonomie », explique Élie Grenon. Ce jour-là, les usagers ont de 7 à 48 ans. Leurs conditions sont diverses. Épilepsie, troubles du spectre de l'autisme, déficience intellectuelle, syndrome de Leigh, paralysie cérébrale, trisomie 21. Le camp, ouvert du lundi au jeudi, est l'un des seuls au Québec à accueillir une clientèle avec des troubles du comportement. 9h42. Cass aime ça les licornes. Cette diversité de profils complique le choix d'activité. Certains sont en fauteuil roulant, ne peuvent parler ou n'ont pas le contrôle de tous leurs membres, alors que d'autres se déplacent sans problème et ont la jasette facile. Les périodes d'activité libre sont donc une valeur sûre. Certains vont préférer faire du bricolage, d'autres en profiteront pour danser et les plus énergiques demanderont d'aller se balancer dehors dans le module de jeu. « Qu'est-ce que tu fais? Une licorne? Encore? Cass aime ça, les licornes? » Si Cassandra, non fictif, affectionne les licornes, Victor, non fictif, lui, est plutôt fan du chevreuil peint dans le corridor. Chacun ici a sa routine, ses dada. Tim a une fascination pour le haut-parleur et sera responsable de plusieurs changements de volume aléatoires. Kevin, non fictif, semble apprécier le sommeil, lui qui dort encore. Cassandra est fan de Céline Dion, elle en écoutera toute la journée. Emmanuel, non fictif, a un croche sur Marc Dupré. Mais la jeune femme de 21 ans se distingue surtout du groupe par la nature de sa condition. Elle est atteinte du syndrome de Leigh, une maladie neurologique progressive qui entraîne une perte graduelle des capacités motrices et cognitives. Il n'y a pas de traitement. Quand on a connu Emma, elle parlait beaucoup, raconte Élie avec nostalgie. Ce jour-là, Emmanuel ne prononcera que quelques mots. 10h33, on a un beau groupe. Chaque jour, les animateurs ont la responsabilité d'usagers en particulier, répartis selon leur niveau d'autonomie. Ils leur mettent de la crème solaire, attachent leurs souliers, poussent leur fauteuil roulant. Ils leur parlent, les chatouillent, les font rire. Laurent Bélanger s'occupe aujourd'hui de Samy, non fictif. Le garçon est non-verbal, mais leur lien est fort. « Ce sont tellement des émotions pures », raconte Laurent, qui étudie en technique policière. C'est dans le cadre d'un stage pour son programme qu'il a commencé à travailler avec cette clientèle. Il raconte que les apprentissages qu'il fait lui serviront assurément dans ses futures fonctions pour lui permettre de mieux réagir à certains types de personnes. Comme Laurent, les animateurs adorent leur emploi. « On a un beau groupe et on est très semblables », raconte Amy Bergeron. Ses collègues, âgés de 18 à 23 ans, ont des parcours variés. Éducation spécialisée, éducation physique, soins infirmiers, technique policière, mais ils travaillent tous avec l'humain, souligne-t-elle. Citation « J'aime aider les gens et offrir du bonheur. Il en faut du monde comme ça. » Fin de citation, Léane Chalifou, animatrice au camp spécialisé La Bascule. « Je me cherchais une job », raconte pour sa part Mathilde Reich, qui est désormais l'animatrice responsable, la bosse. Tombée amoureuse de son emploi, Elle a même réorienté ses études vers le travail social. « Je voulais sortir de ma zone de confort, » renchérit la Loup Michaud. « C'est une belle clientèle. » 10h42. Kevin laisse les autres trouver les indices. C'est l'heure de la chasse au trésor. Chaque animateur accompagne ses jeunes à l'extérieur. Ils sont conscients qu'une telle activité ne pourra pas plaire autant à tous. S'ils avaient davantage de budget, ils aimeraient pouvoir faire des groupes selon le niveau d'autonomie. Avant même de commencer, on prédit avec raison que Léa, non fictif, et Kevin, les plus autonomes, allaient tout trouver. « Kevin, laisse les autres trouver les indices. » Bon joueur, il accepte volontiers. 11h45, sont où les wipes? C'est le dîner, une période plus calme, du moins pour les participants. Certains animateurs mangent avec eux, d'autres les aident à se nourrir. À la bascule, qui dit dîner dit débarbouillage. Les animateurs se passent constamment un paquet de lingettes humides. « Sont où les wipes ?» est la phrase la plus prononcée de la journée. Les animateurs estiment utiliser environ un paquet complet par jour. Aujourd'hui, ce sera deux. 12h57, c'est pour les couches. Les périodes de dîner et de relaxation terminées, les animateurs vont chercher leur groupe. C'est l'heure de l'opération piscine. Certains partent enfiler leur maillot sans accroc. Il ne reste qu'à mettre de la crème solaire. D'autres nécessitent davantage d'attention. Juliette Parent sort d'ailleurs les gants. « C'est pour les couches », explique-t-elle en feignant d'être ravie. Elle aime pourtant son travail. « C'est vraiment valorisant », insiste-t-elle. Il faudra une demi-heure pour habiller et crémer tout le monde. 13h25. « J'aime ça parce que j'aime ça. » 14h55. « Quelqu'un a chié par terre. » Alors qu'on est toujours à se rhabiller après la piscine, des rires retentissent près de la salle de bain. Deux des animatrices poussent alors la porte qui mène au local. « Quelqu'un a chié par terre !» s'exclame-t-elle. « Une boule de neige est tombée de sa couche. Vous n'avez jamais vu quelque chose comme ça !» lance l'animatrice la Loup Michaud. Si un excrément d'une telle taille en aurait probablement répugné plusieurs, ici, c'est normal et hilarant. Tous les animateurs sont déjà passés et repasseront par de tels moments de nettoyage plus tôt que tard. Mieux vaut en rire. 15h10, elle aime beaucoup le camp. Comme au début de la journée, les usagers s'occupent à leur manière en attendant que leurs parents viennent les cueillir. Léa et Amy sont en pleine partie de remis. Félix, non fictif, lui, vient de subtiliser les lunettes du journaliste de la presse. Il a fière allure. Non verbal, il utilise son iPad pour jouer, mais aussi pour communiquer avec le personnel grâce à une application. Chloé, non fictif, elle aussi non verbale, a trouvé une autre manière de communiquer. Elle chante en boucle les premières phrases de la chanson « Bohemian Rhapsody » du groupe Queen. Les animateurs sourient, toujours émerveillés d'entendre la voix plutôt juste de celle qu'ils ne parlent pas. En attendant sa fille, la mère de Cassandra discute avec certains animateurs. « Je vois qu'elle aime beaucoup le camp et qu'elle est contente de socialiser. » Elle l'a inscrite une semaine de plus. C'était « Ce sont tellement des émotions pures », un texte de Thomas-Emmanuel Côté, paru le 11 août 2025 dans La Presse.
Montérégie, du renfort psychosocial pour une clientèle vulnérable, un texte de Jean-Christophe Noël, paru le 13 août 2025 dans le Journal de Chambly. Nadia Bellil-Belluze est la policière dédiée à temps plein en intervention psychosociale en raison notamment d'une subvention de 740 000 $ dont bénéficie la Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent, RIPRSL. Cela fait 17 ans que Nadine Delisle-Belluze est policière. Depuis 3 mois, Elle fait partie de l'équipe de soutien à l'intervention psychosociale, ESIP, de la RIP-RSL. Ce projet pilote vise à offrir un accompagnement personnalisé aux adultes vivant divers problèmes psychosociaux et de santé mentale, tels que l'isolement, la dépendance, la détresse psychologique ou les troubles cognitifs. Il permet de mieux accompagner les clientèles vulnérables, de les guider vers les bonnes ressources, d'améliorer la liaison avec les services du réseau de la santé et ainsi diminuer les interventions policières. Quand je suis entrée dans la police à 21 ans, ça ne m'aurait pas intéressée. Au fil des années, on voit un peu de tout dans ce travail. Je me suis rendu compte que mes forces et ce que j'aimais faire, c'est vraiment tout ce qui est en relation d'aide, santé mentale, personnes vulnérables, etc. Ça arrivait juste à point dans ma vie, observe la policière. Des problèmes variés. Le modèle d'intervention de l'ESIP permet de joindre les personnes vivant différents problèmes comme l'itinérance, la violence conjugale, la santé mentale, l'isolement ou la maltraitance chez les personnes aînées. Je pense que tout le monde a quelqu'un de près ou de loin qui a des enjeux de sensibilité mentale dans sa famille ou ses amis. On en côtoie tous. Et c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, affirme la jante. Elle confie notamment consommer des balado-diffusions en lien avec ces thématiques dans ses temps libres. Nouvelle composition de duo. À titre de policière, Nadia Bellil-Belluz a toujours travaillé en duo. Toutefois, c'est désormais Nathan Arnois, travailleur social, qu'elle a comme partenaire. C'est presque plus facile. On a chacun nos spécificités. Je touche davantage au volet intervention et sécurité. Lui, il pourra évaluer et orienter vers ce qui doit être fait quand la sécurité est établie, décrit Nadia Bellil-Belluz. Je me suis rendu compte que mes forces et ce que j'aimais faire, c'est vraiment tout ce qui est en relation d'aide. Nadia Bellil-Belluz. Quand une situation de crise se présente, le binôme assiste un autre tandem de policiers sur les lieux. Une fois que la situation est sécuritaire, on libère l'autre duo et on prend en charge l'intervention, nous fait part Mme Bellil-Belluz. Elle soutient que la présence du travailleur social facilite le processus de référencement vers la ressource adéquate selon la réalité du moment. On a plusieurs ressources dans le secteur, mais on ne les connaît pas nécessairement. Ça permet un meilleur service, met en reflet la policière. Ainsi, les liens se tissent avec les divers partenaires communautaires et ou de la santé. Une semaine a d'ailleurs été consacrée à ce que Nadia Bellil-Belluz et son collègue fassent une tournée des 10 partenaires du territoire élargi afin de présenter le SIP et d'instaurer la collaboration. En rotation, les 5 équipes de la RIP-RSL travaillent avec Nadia Bellil-Belluz et Nathan Arnois. À moyen terme, ça va développer une compétence et un savoir-faire qui seront partagés et dont tous pourront bénéficier dans leur pratique, prévoit Jean-Luc Tremblay, sergent à la RIP-RSL. Subvention accordée. Une subvention de 740 000 $ sur 3 ans a été accordée à la RIP-RSL pour renforcer l'ESIP. Cette somme permet d'intégrer des travailleurs issus du réseau de la santé et des services sociaux. Un deuxième intervenant en travail social se greffe donc au projet. Quant à elle, Nadia Bellil-Belluz, est la policière dédiée à temps plein en intervention psychosociale. On avait des enjeux de santé mentale et d'itinérance sur le territoire pour lesquels on n'avait pas nécessairement la capacité de financer les ressources, cible Jean-Luc Tremblay. Conséquemment, la RIPRSL a construit une proposition démontrant son besoin et la façon dont elle entendait la mettre en application. Le projet a été accepté. Il permet donc, en un premier temps, de répondre à la crise de façon immédiate et, en second lieu, de prolonger le service après-crise. Cette bonification représente une avancée significative. L'ajout d'un deuxième intervenant nous permet d'élargir notre couverture et de répondre aux demandes de première ligne en matière de santé mentale aux heures critiques. Quant à la désignation d'un agent policier spécialisé, elle vient consolider notre approche intégrée et collaborative, souligne le directeur de la RIPRSL, Marco Carrier. Définir les rôles. Depuis sa création, l'ESIP a réalisé près de 1600 interventions. La RIPRSL reçoit plus de 1000 appels de crise par année. Les enjeux de santé mentale sont transversaux. Il y a de nombreuses distinctions. Nous, on est des policiers, on n'est pas des spécialistes. Quand on est accompagné de spécialistes, ce sont eux qui pourront faire la distinction et diriger dans la bonne trajectoire, selon le constat, nuance Jean-Luc Tremblay. Il rappelle que l'objectif de ces troupes n'est pas la prise en charge, mais bien de gérer la crise. Le dossier ESIP a vu le jour à titre de projet pilote en 2021 avant d'être officialisé en 2023. C'était Montérégie, du renfort psychosocial pour une clientèle vulnérable, un texte de Jean-Christophe Noël, paru le 13 août 2025 dans le journal de Chambly.
Chaleur extrême, la santé publique surveille les décès. Un texte d'Hugo Duchesne, paru le 11 août 2025 dans le journal de Montréal. Les autorités de santé publique de Montréal et de la Montérégie interpellent les urgentologues afin d'être avisés de tout décès en lien avec la chaleur extrême qui sévit depuis dimanche. À Montréal, la Direction régionale de santé publique a demandé qu'on lui rapporte tout décès qui survient à l'hôpital dans les 24 heures suivant l'arrivée du patient et pour lequel la chaleur est un facteur. Elle va aussi répertorier tous les coups de chaleur de la métropole. Un appel à la vigilance similaire a été émis en Montérégie. Avec le mercure qui a encore dépassé les 33 degrés Celsius pour une troisième journée mardi, la santé publique estime que les critères de chaleur extrême sont atteints pour la deuxième fois cet été. Une même alerte avait été lancée lors du congé de la Saint-Jean-Baptiste. Citation : On voit davantage de visites dans les urgences pour des complications liées à la chaleur, explique le vice-président de l'Association des spécialistes en médecine d'urgence du Québec, le Dr Guillaume Lacombe, lors des épisodes de canicule. Fin de citation. Il rappelle que les aînés et les très jeunes enfants sont plus à risque, tout comme ceux qui souffrent de maladies chroniques. Surtout que divers médicaments peuvent accentuer la fatigue ou la déshydratation, poursuit-il. Au-delà des coups de chaleur, les conséquences de la chaleur extrême peuvent être plus larges, selon le Dr Lacombe, urgentologue à Joliette. Par exemple, un aîné déshydraté devient plus à risque de chute et des complications liées à celle-ci, comme une hanche cassée. 15 décès l'an passé. En date de lundi, aucun cas n'avait encore été rapporté à Montréal, mais il faut souvent plusieurs mois avant d'établir un portrait précis. Lors de la vague de chaleur du 18 au 21 juin 2024 à Montréal, pour laquelle la santé publique vient de publier son enquête épidémiologique, une personne est morte d'un coup de chaleur et le décès de 14 autres avait un lien probable avec la chaleur. La majorité des personnes décédées avaient des maladies chroniques préexistantes, comme l'hypertension ou le diabète, et elles avaient toutes plus de 50 ans. C'était « Chaleur extrême, la santé publique surveille les décès », un texte d'Hugo Duchesne, paru le 11 août 2025 dans le Journal de Montréal.
Inauguration de logements pour adultes vivant avec un trouble du spectre de l'autisme en Gaspésie, un texte de la Société canadienne d'hypothèque et de logement, paru le 11 août 2025 dans Cision. Le ministre responsable des services sociaux, Lionel Carman, accompagné du député de Gaspé, Stéphane Sainte-Croix, a procédé aujourd'hui, dans le cadre de sa tournée dans la région de la Gaspésie, à l'inauguration d'un immeuble de 12 logements destiné à accueillir des adultes vivant avec un trouble du spectre de l'autisme, TSA. Les premières personnes s'y installeront en octobre. Le projet d'hébergement a été réalisé par l'organisme Demeure-toi de Gaspé. Il s'agit d'un organisme sans but lucratif, issu de l'initiative de parents ou de proches de personnes autistes, visant à créer un milieu de vie adapté à leurs besoins. Le projet a également bénéficié du soutien de diverses instances gouvernementales ainsi que d'un organisme du milieu. L'immeuble accueillera 11 personnes. Le 12e logement étant occupé par une personne locataire accompagnatrice. Pour avoir accès à ces logements, il faut, en plus d'être adulte et de présenter un TSA, souhaiter développer un projet de vie afin d'être impliqué activement dans la société et vivre de manière autonome, manifester le désir, la motivation et l'engagement pour développer son projet de vie, vouloir recevoir les services professionnels de l'équipe multidisciplinaire affectée au projet. Les services offerts sont de l'assistance personnelle, de l'aide à la vie domestique, du soutien civique et de la surveillance. Un service d'éducation spécialisé est également offert par le Centre intégré de santé et de services sociaux de la Gaspésie auprès de la clientèle qui réside dans l'immeuble. Ce projet a bénéficié d'un appui du ministère de la Santé et des Services sociaux afin de développer de nouvelles places en hébergement pour la clientèle en déficience physique et intellectuelle et en TSA, de diminuer le nombre de personnes en attente et de mieux répondre aux besoins des personnes hébergées. L'organisme recevra également un financement annuel de 275 000 $ pour offrir les services mentionnés. La Société d'habitation du Québec, SHQ, a contribué au projet Demeure-toi en injectant une somme supplémentaire de 5,2 millions de dollars. Ce financement s'inscrit dans le cadre d'une entente tripartite conclue entre la SHQ, la ville de Gaspé et l'organisme porteur du projet. Grâce à cette aide financière, la maison d'hébergement a pu sortir de terre et pourra remplir pleinement sa mission. Citation. Nous sommes déterminés à collaborer avec tous les ordres de gouvernement et tous les secteurs pour offrir un soutien en matière de logement à celles et ceux qui en ont le plus besoin. Ce projet permettra de créer rapidement des logements pour certaines des personnes les plus vulnérables de Gaspé, dont les besoins sont urgents. Notre gouvernement est fier de faire partie des partenaires qui rendent ce développement possible. L'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique. Les personnes adultes vivant avec un TSA ont besoin de développer leur autonomie au sein d'un projet de vie qui va les aider à aller au bout de leur potentiel. Pour ce faire, il faut leur offrir un milieu de vie bien adapté à leur réalité, dans leur propre communauté, à proximité de leur famille et de leur entourage. Pour que cela s'accomplisse avec succès, nous devons leur fournir les services d'accompagnement nécessaires. C'est pourquoi je suis très fière d'avoir apporté mon soutien à ce projet avec l'appui de nos équipes des services sociaux. Lionel Carman, ministre responsable des services sociaux. Offrir un toit adapté aux adultes vivant avec un trouble du spectre de l'autisme, c'est bonifier concrètement le continuum d'hébergement au Québec. Ce projet est une preuve tangible que nous multiplions les efforts pour augmenter l'offre de logements partout au Québec en misant sur des milieux de vie durables, fonctionnels, inclusifs et sécuritaires. Il incarne notre volonté de répondre aux besoins particuliers de chaque Québécois et Québécoise avec dignité et respect. Je tiens à féliciter chaleureusement tous les partenaires impliqués. France-Hélène Duranceau, ministre responsable de l'habitation. Les besoins des adultes de la Gaspésie ayant un TSA sont criants. Comme en témoigne le fait que plusieurs citoyennes et citoyens se soient réunis pour mettre sur pied ce beau projet. Et les services seront au rendez-vous pour bien soutenir ces personnes et leurs familles dans leur volonté d'autonomie et d'épanouissement au sein de la collectivité. Je remercie tous nos partenaires dans cette aventure, notamment l'organisme Demeure-toi, le gouvernement fédéral et l'établissement régional de santé et de services sociaux et ses équipes dévouées. Maïté Blanchette-Vézina, ministre des Ressources naturelles et des Forêts, ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Île-de-la-Madeleine. Je me réjouis de ce projet issu d'une initiative locale et qui vient répondre à un besoin réel des personnes vivant avec un TSA et leur famille. Je remercie les membres de notre communauté qui ont mis sur pied une telle initiative avec l'appui de nos deux paliers de gouvernement. Nul doute que ces logements feront une grande différence dans la vie des personnes résidentes. En développant ainsi leur autonomie, ces personnes contribueront au dynamisme de l'ensemble de notre région et j'en suis très fière. Stéphane Sainte-Croix, député de Gaspé. Fait saillant. Le coût de réalisation du projet est estimé à 9 millions de dollars. L'entente Canada-Québec concernant l'initiative pour la création rapide de logements a permis un financement de 3,65 millions de dollars. Les services d'éducation spécialisés fournis par le CIS équivalent à un financement d'environ 40 000 dollars. C'était Inauguration de logements pour adultes vivant avec un trouble du spectre de l'autisme en Gaspésie, un texte de la Société canadienne d'hypothèques et de logements, paru le 11 août 2025 dans la presse.